France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Lion d'argent du meilleur réalisateur à Venise, puis titulaire de 3 Golden Globes, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, nommé dans 10 catégories pour les Oscars qui auront lieu le 3 mars prochain, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur acteur pour Adrien Brody, Le Brutaliste, film de 3h35 avec un entracte, filmé dans un format qui n'est plus utilisé depuis un demi-siècle et qui raconte le parcours d'un architecte visionnaire juif hongrois rescapé de la Shoah et émigré aux États-Unis, où il doit affronter un chantier gigantesque. Le Brutaliste, donc, est passé de statut de film invendable à un phénomène critique et commercial international. Comment est-ce possible? Comment ce film a-t-il pu se faire aujourd'hui à l'époque des franchises? Quel paradoxe contemporain explique son succès international et où à l'époque où Donald Trump est au pouvoir et où le cinéma est de plus en plus formaté? Qu'est-ce qui fait de ce film, en d'autres termes, un signe des temps? C'est ce sur quoi on va essayer de réfléchir aujourd'hui, avec pour en parler Olivier Lam. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération et vous avez critiqué le film.
Je ne l'ai pas critiqué, c'est mon collègue Elisabeth Franck-Dumas, j'ai interviewé le réalisateur et la co-scénariste. Ouais.
Samuel Baumenfeld, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma au Monde, habitué de cette émission. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Une affaire très française avec Raphaël Baquet et un livre sur Delon Belmondo. Et vous avez fait le portrait du cinéaste Brady Corbet. Et Xavier de Jarcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste d'architecture dont il est beaucoup question dans le film, en particulier du Bauhaus et du brutalisme dont on va parler dans un instant. Alors, d'abord ce film, le parcours de ce film qui est quand même très exceptionnel, puisque début septembre, Brady Corbet, le cinéaste, est arrivé à la Mostra de Venise pratiquement sans distributeur. Il a fallu une dizaine de techniciens en cabine le soir de l'avant-première, raconte Didier Perron dans Libération, pour gérer les 26 bobines du film qui était tourné sur pellicule et en VistaVision. Et finalement, après une première projection, apparemment un matin où il n'y avait pas grand monde, le bruit s'est répandu de ce qu'était ce film, qui a eu finalement une standing ovation de 15 minutes le soir de l'avant-première et qui a remporté le Lion d'argent de la meilleure réalisation. La sortie de son film aux États-Unis s'est faite dans un concert de louanges critiques qui lui a valu 3 Golden Blood, je viens de le dire. Il a engrangé 19 millions de dollars aux États-Unis, soit le double de ce qu'a été son budget de 10 millions de dollars, qui est lui-même 4 fois moins que le documentaire sur Melania Trump qu'elle a elle-même vendu à Amazon pour 40 millions de dollars, pour donner une idée. Alors, ce film, que faut-il en penser d'abord? Qui veut commencer? Samuel Grunfeld?
À mon sens, énormément de bien. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc comment le développer? C'est un film qui est d'une épaisseur romanesque et scénaristique hors du commun. On a régulièrement insisté sur la longueur inhabituelle du film, 3h30, incluant un entracte de 15 minutes. Entracte important, puisque l'entracte, en fait, s'inscrit dans le récit du film. Donc, c'est une manière très à propos et très habile d'utiliser ce qui est d'ordinaire un temps mort. Et donc, c'est un film d'une longueur inhabituelle, mais qui justement met à essai cette longueur inhabituelle pour justement développer une histoire d'une ampleur très très inhabituelle de nos jours. Donc c'est véritablement une des forces du film. Par ailleurs, c'est un film qui met en scène le sujet toujours fascinant, en fait, du conflit entre l'artiste et son commanditaire. C'est un film qui traite des rescapés de la Shoah, mais des rescapés. C'est pas un film sur la Shoah, c'est un film sur les rescapés de la Shoah. Et c'est un film qui, justement, ne tombe pas dans le piège de l'idéalisation. Donc, véritablement, nous sommes devant un objet d'une densité inhabituelle.
Alors, je résume deux lignes de sur l'histoire. Hein. C'est l'histoire de Laszlo Todt, qui est un disciple de l'architecture Bauhaus, donc survivant des camps, on vient de le dire, qui débarque en 47 aux États-Unis, sans rien, sans un sou, qui est recueilli d'abord par son cousin Attila, qui tient un magazine de meubles à Philadelphie, et puis finalement, à la suite d'une commande d'un client, Laszlo Todt va se voir commandé par un homme d'affaires qui s'appelle Harrison Van Buren dans le film et qui est joué par Guy Pearce, la construction d'un bâtiment, d'une espèce de centre, d'une église en fait, pour une communauté. Et il va essayer de construire ce chantier tout en essayant de faire venir sa femme Erzsébet et sa nièce Sophia qui sont encore coincées en Europe et qui sont jouées par Felicity Jones et Raphaël Cassidy, tandis que Laszlo Todt est joué par Adrian Brody et il est escorté par un de ses amis qui est joué par Isaac de Bancolet. Pour résumer. Et le film va se centrer sur d'abord la collaboration puis le conflit entre Van Buren, donc le commanditaire du centre à construire, et l'architecte Laszlo Todt. Olivier Lam.
Oui, moi je pense qu'il faut souligner à quel point le récit aussi s'appuie presque de manière très aventureuse et déséquilibrée sur un trou noir, sur un silence qui est ce qu'a vécu Laszlo notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il arrive en 46, hein, si je dis pas de bêtises, à Ellis Island, et que tout au long du film jusqu'à l'épilogue, on ne saura pas précisément ce qu'il a vécu. Lui-même refusera d'en parler, n'en parle quasiment pas avec sa propre épouse, avec laquelle il échange en anglais, voilà, comme si il y avait quelque chose d'insupportable à évoquer ce monde évanoui derrière eux qui est l'Europe. Moi, ça me fait penser notamment à Arnold Schoenberg qui n'est jamais retourné en Europe, qui n'a jamais pu retourner en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et le film quand même avance et se construit quand même sur ce, et on voit cet édifice très mystérieux se construire autour de cette cavité, de ce trou noir, je sais pas comment on pourrait l'appeler, de ce silence très fort qui est aussi celui qu'a choisi ou qui s'est imposé à la nièce qui ne parle pas jusqu'à la, même si on découvre à la fin du film qu'elle finalement pas recouvrir la parole. Voilà. Et je pense que c'est un fait important parce que moi j'entends beaucoup de critiques que je peux tout à fait concevoir face à la densité aussi, à cette espèce de grandeur autoproclamée du film qui est là, hein, qui dans la, formellement est indéniable, par rapport à cette épaisseur, presque l'oubli en fait de ce sujet. Donc je pense que Brady Corbett et donc Mona Fassbold, donc la co-scénariste du film, s'empare pas du tout comme une métaphore. Je pense que c'est un film qui traite du lendemain et de l'après-guerre de manière très frontale et très très concrète. Donc c'est vrai que ça peut déstabiliser dans ce film qui par ailleurs évoque énormément d'autres sujets. On l'a dit, l'artiste par rapport à son financier, le capitalisme. Enfin c'est un film, le racisme, l'antisémitisme. C'est un film vraiment extrêmement dense.
Alors on va parler des rapports en particulier de l'artiste à son commanditaire. Il y a effectivement une ambition qui est artistique et littéraire très forte. Hein. La première partie s'appelle L'énigme de l'arrivée en référence ouverte à Népal. L'entracte avec la photo, il y a un entracte dans le film, au milieu du film, avec une photo d'un mariage qui est. Et il y a un décompte de l'entracte d'un quart d'heure qui est une sorte de citation esthétique de Sebald, des romans de Sebald. Donc il y a une signalétique quand même assez puissante. Attention, c'est un grand. Je suis en train de faire une grande œuvre.
On pourrait évoquer la musique aussi qui est très très intéressante.
La musique est très présente. Moi j'ai beaucoup de réserves sur le film personnellement pour plusieurs raisons. Il me semble que les personnages ne sont pas tellement. Ils restent très en surface, j'ai le sentiment. À la fois le couple en question et par exemple des personnages comme Isaac de Bancolet dont on ne saura pas grand chose finalement. Xavier Jarcy, vous n'êtes pas critique de cinéma, je m'en presse de le préciser, voilà. Mais vous avez vu le film et oui. on va parler d'architecture dans une seconde, mais d'abord votre impression sur le film.
Ben justement, ce film ne parle pas beaucoup d'architecture. Moi, pour le plan-là, c'est pas dense du tout, parce que sur 3h30 de film, il n'y a pas une minute de dialogue pour nous expliquer quels sont les enjeux de l'architecture aux États-Unis, à la fin des années 40 et au début des années 50.
Alors ce que vous dites, c'est que vous avez écrit un papier sur Marcel Breuer, qui est le modèle du personnage incarné par Adrien Brody dans le film, un des modèles, une des inspirations. Et une des choses que vous dites, c'est que Breuer est arrivé au Beauce au début des années 20, à 18 ans, et qu'il a émigré en 37 aux États-Unis. Donc ça ne suit pas exactement évidemment le personnage du film est imaginaire, mais ce que vous dites d'intéressant, c'est que il n'était pas le seul. Beaucoup d'anciens du Beauce, fuyant l'Allemagne nazie, se sont installés aux États-Unis. Et vous dites, à l'inverse de ce que suggère le brutaliste, les réseaux Beauce sont déjà bien implantés de la fin des années 30 aux États-Unis. Un talentueux ancien élève débarqué en 47 comme Laszlo Töth aurait aussitôt été intégré au système universitaire. Il ne se serait pas retrouvé à la merci du premier fantasque commanditaire venu. Et de ce point de vue, les États-Unis ne sont pas le pays de plouc et d'arriérés que suggère le film. C'est ça.
Le Bauhaus, c'est une école qui ouvre à Weimar en 1919 et qui est fermée par les nazis en 1933. Donc, dès 1933, il y a des étudiants ou des professeurs de cette école qui émigrent, notamment aux États-Unis. Et qui sont tout de suite intégrés dans le système universitaire. Marcel Breuer, lui, il émigre d'abord en Grande-Bretagne, à Londres, en 1935, et puis il est appelé aux États-Unis en 1937 pour rejoindre le fondateur du Bauhaus, donc Gropius, qui lui enseigne à Harvard, et qui va même devenir directeur du département de l'architecture de Harvard en 1938. Donc Breuer arrive pour enseigner, mais aussi pour travailler, puisque Gropius a son agence, ils travaillent ensemble.
Le point central, c'est que le Bauhaus est déjà en fait très
installé. Voilà, et ils ont beaucoup de commandes, donc ils n'ont pas de difficulté à imposer leur modèle d'architecture moderne aux États-Unis.
Donc ce que ça suggère, c'est que le film est en fait, enfin l'aspect architecte n'est pas à prendre nécessairement d'un point de vue strictement réaliste dans le film.
Non, pour moi c'est une espèce de conte ou de fable sur la solitude de l'artiste, mais c'est pas du tout la réalité de l'architecture des États-Unis.
Oui, Samuel Blumenfeld.
Mais si vous voulez, c'est là-dessus le réalisateur du film, Brady Corbett, sa co-scénariste, Mona Fassbold, ont été très clairs. Ils ont des modèles, d'ailleurs pas un modèle, ils ont des modèles. D'ailleurs, parmi leurs modèles, ils sont tous les deux issus de familles d'architectes.
Oui.
Et véritablement, ils ne voulaient en aucun cas mettre en scène une biographie, mais justement faire un agrégat de différents architectes. Donc on n'est pas ici dans la stricte exactitude historique. J'entends quand vous dites qu'on ne nous parle pas d'architecture dans le film. Mais si je prends le grand film hollywoodien sur l'architecture avant The Brutalist, Le Rebelle de King Vidor avec Gary Cooper, on ne parle pas d'architecture. Et pourtant, je comprends bien qu'il s'agit d'architecture. C'est-à-dire que l'enjeu du cinéma est-il de nous faire une leçon sur l'architecture ou de nous mettre en scène un récit? Moi, je suis favorable justement à la mise en scène d'un récit, mais sans leçon.
Ce qu'il est quand même laissé entendre dans le film, c'est que le brutalisme serait une conséquence en quelque sorte de la Seconde Guerre mondiale, voire de la Shoah. C'est quand même ça qui est laissé entendre.
Je pense qu'on peut laisser au film quand même le bénéfice de la métaphore. Voilà, on est sur l'affaire de l'artiste esselé ou abandonné face à un cerbère capitaliste qui vient le financer. On est évidemment sur une métaphore de la production de cinéma à Hollywood aujourd'hui en 2025. Ça me semble une évidence. Et par ailleurs, je pense que Brady Corbett cite moins, par exemple, Breuer que les bâtiments qu'a construit Breuer. Et ce qui est assez clair dans le film, c'est que, évidemment, ce bâtiment Et l'expression qu'a choisi qui s'est imposée au personnage de Laszlo Toth comme une manière de s'exprimer plutôt que par le langage. Donc on est vraiment sur et ce qui est étonnant, et si on peut dire que le film ne parle pas d'architecture, l'architecture qui est montrée dans le film, moi je la trouve absolument époustouflante. Et pour le coup là, il y a eu un travail que je trouve vraiment parce que c'est un film qui a coûté, mais une somme absolument infime par rapport à ce que coûte aujourd'hui un film aux États-Unis à produire et à réaliser. Ce bâtiment existe alors qu'il n'existe pas, donc il a été fait entre de la maquette, quelques tournages dans des lieux préexistants et un peu de numérique qu'on ne perçoit pas du tout, et on le découvre dans sa totalité donc à la toute fin du film. Et je là pour le coup, un film qui se construit à ce point-là sur un édifice, sur la forme qu'il a et sur la signification de cette forme, alors que pendant le reste du film on a vu à l'œuvre un architecte, un artiste se battre sur des détails qu'on ne comprend pas a priori les enjeux à ce moment-là, notamment le personnage de Laszlo Toth se bat pour 3 mètres de différence sur les hauteurs et bloque absolument le chantier pendant des semaines, des mois, et se bat contre tout le monde, notamment contre une espèce d'imbécile qui est censé l'aider à faire en gros un bâtiment qui serait plus dans les corps de l'architecture américaine de cette époque-là. Il y a un dialogue très drôle où il explique que il est le responsable de toute la laideur du monde. Enfin bref, c'est un détail. On comprend tous ces enjeux-là et ce que le film investit là-dedans à la toute fin du film. Et de ce point de vue-là, c'est du pur cinéma. Voilà, c'est effectivement très romanesque. C'est peut-être un petit peu, on va dire, délirant ou par rapport à la réalité de la manière dont étaient accueillis les architectes du Bauhaus aux États-Unis, et pas que, et beaucoup d'artistes d'avant-garde qui ont fui l'Europe, mais il se trouve que ça produit quelque chose de très important, je pense, en 2025. Et Brady Corbett n'a pas 40 ans, donc évidemment.
Oui, alors on va parler dans une seconde de cet aspect des choses.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born. And you could not keep warm, so you moved away the mountains that the sun rose behind. You said yourself a prayer and lay down with the blind. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. And the vow of compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs we. Nobody blames you as the train pulls away with its cargo full of snow of these German paperweights. You lost them in your freedom.
Alors, oui, Brady Corbett, le réalisateur du Brutaliste, n'a donc que 36 ans, c'est son troisième film, et je résume vos deux articles à l'un et à l'autre, Samuel Blumenfeld et Olivier Lam. Il a fait 3 films en 10 ans, donc L'enfance d'un chef en 2015, D'après une nouvelle de Jean-Paul Sartre, déjà c'est un signe, peu de gens ont vu le film, je crois personne, mais ça donne quand même un signal, avec Robert Pattinson et Bérénice Bejo, et puis Vox Lux avec Nathalie Portman. Il est fils unique d'une mère célibataire, il a grandi dans le Colorado, il a fait très peu d'études, il a eu une scolarité fugace, Samuel Blumenfeld, je crois que c'est vous qui dites ça, et avant d'avoir 10 ans, il regardait déjà les films de Michael Powell, et Nicolas Roeg et de Fassbinder. C'est un lecteur vorace, il a travaillé dans une librairie, il a été acteur aussi dans plusieurs films, dont Funny Games de Michael Haneke, et chez Lars von Trier, Mélancolia. Et il a écrit le scénario. Il travaille en fait en symbiose totale avec son épouse, qui est une réalisatrice norvégienne du nom de Mona Fastvold. Ils ont écrit le scénario en 7 semaines et ils ont mis 7 ans à faire le film, qui a été interrompu une première fois en 2020 pour cause de Covid, et puis finalement repris. Et la première assistante qui se trouve avoir été française, Célie Va Val Denaire, témoigne, je crois que c'est dans Libération, dit qu'elle a vécu cette aventure comme une des plus grandes expériences de sa vie, en disant « je ne sais toujours pas comment on a réussi à tourner ça en 34 jours avec 10 millions de dollars ». En Hongrie. Donc, il y a, autrement dit, ce qui est mis en avant et ce qui apparaît, c'est l'aventure artistique, le grand retour du cinéma d'auteur, en quelque sorte.
Qui n'avait pas disparu, hein, par ailleurs, mais qui est sûr qu'il est très désargenté. Et on pourrait aussi parler tout simplement du cinéma du milieu aux États-Unis, même si le statut de brutaliste est un peu particulier, puisque c'est un film qui est américain dans la manière dont il a été produit, mais c'est un film très européen. Et d'ailleurs, Brady Corbett vit entre l'Europe et les États-Unis. Il a joué dans des films aussi de Mirren and Love. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très très francophile. Donc c'est quand même assez particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens ricanent déjà sur le fait que le film serait en fait un grand suppôt la petite exception qui vient un peu confirmer le grand système hollywoodien qui continue à être plus vorace, conquérant et idiot que jamais. Mais je crois pas. Je pense qu'on a des grandes histoires de films qui sont dont on a du mal en fait à défaire de la manière dont ils ont été produits. Voilà, on a mis l'exemple, hein, Apocalypse Now de Coppola par exemple, ou même le dernier Megalopolis. Et je pense que c'est quelque chose qui vit dans le film. La relation par exemple entre Mona Fassbold et Brady Corbett, elle est complètement, elle fait palpiter totalement la relation entre Laszlo et Erzsébet dans le film. Je pense que c'est quelque chose de très palpable, en tout cas moi que j'ai trouvé très 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 émouvant, et par ailleurs effectivement cette histoire est objectivement étonnante dans le contexte actuel où on a l'impression que plus personne ne peut faire de film, que là après un moment une espèce de parenthèse soi-disant enchantée, pas pour nous parce qu'on voit pas les films au cinéma, entre les auteurs américains, les grands auteurs américains et les plateformes de streaming comme Netflix, là on arrive au bout de cette histoire puisque les plateformes veulent plus investir là-dedans, et on se demande vraiment ce qui va advenir d'un cinéma adulte artistique. Et ce qui est étonnant, c'est que Corbett effectivement est quelqu'un qui s'est complètement forgé en tant que cinéaste face à des films dont on a l'impression qu'ils se démonétisent au fur et à mesure que la cinéphilie évolue chaque année quasiment aux États-Unis mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on est en train de tourner le dos quand même sur une grande partie du grand public qui se pense cinéphile, est en train de tourner le dos à une grande partie de la cinéphilie mondiale, notamment européenne. Et là, on a quelqu'un qui tout d'un coup vient complètement, entre guillemets, je vais utiliser un mot horrible, mais vient vraiment disrupter ça avec un film, voilà, très ambitieux et surtout qui, dans sa forme, vient prouver finalement que c'est quand même possible de trouver une voie alternative. Et ça, c'est très important parce que il peut créer, si ce film continue un peu sa route jusqu'aux Oscars, etc., peut créer un vrai précédent, c'est-à-dire remettre l'idée d'un cinéma alternatif réel et puissant, là peut-être pas, qui évidemment restera minoritaire financièrement, mais notamment aux États-Unis, et puis on verra ce qui se passe dans les années qui viennent politiquement.
Alors Xavier Jarcy, dans votre papier, vous finissez en disant il faut pas voir dans le brutaliste un reflet fidèle de la vérité historique, mais un conte au romantisme très 19e siècle sur la solitude de l'artiste incompris. Et c'est ça que moi je trouve intéressant, c'est ce paradoxe d'un retour d'une figure de l'artiste effectivement romantique, non?
Oui, mais alors il fallait prendre un artiste et pas un architecte, parce que, encore une fois, c'est pas du tout le contexte...
En termes réalistes, oui, voilà, mais ça peut faire...
L'architecture brutaliste des années 1950, qui rencontre beaucoup de succès, enfin, en tout cas... si on prend l'exemple de Breuer, il déborde sous les commandes... Il ouvre même une agence en France parce qu'il a des commandes en Europe. Donc c'est pas la solitude. Et puis il travaille pas tout seul, il travaille en équipe. Enfin, ça reflète pas du tout le métier de l'architecte tel qu'il se déroule réellement.
Oui, oui, oui.
Alors ça aurait peut-être été plus réaliste de choisir un peintre ou un sculpteur.
Mais Samuel Blumenfeld, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'il n'y a pas que les plateformes qui remettent en cause la notion d'auteur au sens romantique aussi, au sens romantique du terme, il y a aussi tout le nouveau discours sur la remise en cause de la politique des auteurs qu'on entend partout, presque partout aujourd'hui. C'est-à-dire tout ça c'est fini, il faut revenir à autre chose. Et Et soudainement, ce film-là et d'autres réactivent, quitte à emprunter à l'architecture, cette mythologie de l'auteur contre le système.
Oui. Il y a une identification très forte de Brady Corbett à son personnage. Alors c'est logique puisqu'il l'a écrit, donc il en est, c'est le cas de dire l'auteur.
Ouais.
Mais le fait que ce personnage soit un architecte n'est pas anodin, parce que les rapports entre le cinéma et l'architecture sont profonds, tout simplement parce que ce sont deux arts en 3D. Alors je dis le cinéma est un art également a toujours été un art en 3D puisqu'il vise à donner l'illusion de la perspective. Ça c'est un art qui n'a pas besoin justement de ce qu'on appelait plus tardivement la 3D. En fait, le cinéma est naturellement en 3D. Donc il y a ce que Brady Corbett veut nous signifier, c'est véritablement l'extrême porosité entre le metteur en scène et l'architecte. Ce qui me frappe chez Brady Corbett dans son statut d'auteur, ou du moins dans son identité plutôt, statut je ne sais pas, mais identité certainement, c'est que dans son parcours, on s'aperçoit que nous avons affaire à quelqu'un qui a toujours été dans le cinéma, a toujours travaillé dans le cinéma, puisqu'il a commencé à être acteur dès l'âge de 13 ans.
Ouais.
Or, il a très rapidement cessé d'être un acteur adolescent pour en fait jouer dans les films des autres, un parcours assez singulier puisqu'il est avec beaucoup d'auteurs, il tourne chez Michael Haneke, il tourne chez Lars von Trier, il tourne avec beaucoup de réalisateurs français, Olivia Sayas, Méan Senov, comme si en fait ce garçon n'avait pas besoin de s'inscrire dans un lycée ou dans une université, mais avait décidé, comme dans les glorieux jours d'Hollywood, de se former sur le terrain. Et c'est véritablement ce qu'il a fait. Il a appris au contact des autres, au contact des maîtres. Parce qu'on peut dire que Michael Haneke et Lars von Trier sont des maîtres. Donc, curieusement, cet auteur du 21e siècle s'est formé comme un auteur du début du 20e siècle.
Mmh, mmh. Oui, oui. Et alors, moi, je vois peut-être un signe aussi de ce retour de la mythologie auteuriste dans la manière dont le film a en quelque sorte détrôné le Emilia Pérez. C'est-à-dire que le film qui était prévu comme dans la doxa, dans l'air du temps, donné vainqueur a priori, se voit en quelque sorte détrôné, au moins dans les rumeurs, on ne sait pas quel sera le résultat, mais par un film qui est fait en franc-tireur complètement.
Oui, enfin, ce qui pourrait être le cas, j'imagine, d'une Emilia Pérez, si on le regarde d'une certaine manière, mais moi j'aurais du mal à opposer les deux. C'est-à-dire que cette remise en cause ou cette accusation ou cette déconstruction, on va dire, de l'auteur, du mythe de l'auteur à la française, parce qu'en vérité c'est quelque chose de très franco-français, je pense,
oui,
pas qu'aux États-Unis. Je pense que c'est pas du tout exclusif, enfin n'exclut absolument pas la possibilité qu'on puisse encore valoriser le cinéaste comme un artiste. Donc, je pense pas que, donc si vous voulez, on peut dire auteur, on peut aussi dire tout simplement cinéaste, artiste, poète ou je ne sais quoi, comme on disait à une autre époque, plutôt que tout puissant. Donc on pourrait aussi, comme il a coécrit le film avec son épouse et qui est également cinéaste, également actrice, on pourrait aussi présenter ça comme une manière nouvelle d'être un auteur aujourd'hui dans le cinéma américain. En tout cas, c'est une manière aussi de reprendre le pouvoir en tant que créateur par rapport aux financiers. C'est quand même,
mais il y a une ambiguïté, parce que l'image de l'architecte qui est donnée, c'est vraiment l'image de l'artiste solitaire, même si Corbet lui-même travaille en... Il y a quand même cette idée-là.
Bien sûr, et en même temps, un personnage traumatisé, traumatisé, dont on comprend finalement qu'il agit d'une manière totalement, avec l'énergie d'une espèce de désespoir ou de course contre la mort. Il s'appelle Toth, hein, c'est pas par hasard, qui fonctionne, je pense, dans le contexte romanesque, fonctionne très très bien. Donc évidemment, il y a des moments où ça, peut-être que le parallèle ne fonctionne pas totalement. Mais je pense quand même qu'il faut imaginer aujourd'hui ce que c'est de travailler quand on est un cinéaste qui entend faire des films et avoir, il l'a dit, hein, dans son discours de Golden Globes, il parlait du final cut, le fait d'avoir le droit de monter son film et d'avoir le montage définitif sur son film. Le fait que ça soit quelque chose qui soit si peu donné aux cinéastes aujourd'hui, ça soit devenu une exception plutôt que la règle. Lui, il considère que ça comme une aberration. Donc il le dit, il le porte, et c'est intéressant de le voir au Golden Globes, peut-être demain aux Oscars, dire, de remettre un petit peu le, tout simplement l'artiste, pas forcément comme un démiurge totalement délirant, voilà, un ogre misogyne, tout ce qu'on veut, violent, etc., qui était l'image de l'auteur dans le patriarcat, pour reprendre tous ces mots, etc., depuis le début du siècle, mais peut-être plutôt comme une nouvelle génération, une nouvelle manière aussi de prendre l'art à bras le corps, l'art du cinéma, qui est un art qui aujourd'hui est, en tout cas aux États-Unis, est vraiment très très vraiment en danger de mort. On peut le dire. Donc c'est pas inintéressant de voir un cinéaste de cet âge-là, voilà, revendiquer sa liberté d'artiste de cette manière. Voilà.
Mais je me demande si les réserves que par exemple moi je peux avoir sur le film ou que Xavier Jarcy vous avez ne viennent pas justement en partie de là, c'est-à-dire qu'il y a un tel acharnement à vouloir absolument poser le geste artistique que quelquefois ça étouffe le film en quelque sorte par les références, les références à la littérature, les références au cinéma, au détriment de simplement laisser vivre les personnages. Je parlais du personnage Isaac de Bancolé, qui a quand même très peu d'existence.
C'est un débat, parce que moi je pense qu'il a une scène qui le définit, et c'est dans le grand cinéma classique, des personnages qu'on voit tout au long du film, un peu dans l'arrière-plan, tout d'un coup ont une scène qui les fait exister. Moi, je vais pas rentrer dans le détail, une scène avec son fils et la disparition de la mère, moi qui m'a semblé résonner et tout d'un coup faire exister ce personnage de manière très très belle. Mais bon, après, voilà, on peut en discuter. De la même manière, le personnage de la femme qui a la dernière grande scène du film, c'est elle qui la précipite et qui la suscite, et moi que j'ai trouvé absolument renversante. Mais bon, c'est un détail. Mais c'est sûr que le film intimide, et le film, il faut aimer évidemment des œuvres d'art qui je sais pas comment dire, qui ont cette ambition de tout embrasser. On peut citer un autre jeune acteur, cinéaste, qui est arrivé, je sais pas pour les comparer, ni comparer la qualité des films, mais voilà, Orson Welles, grand acteur, cinéaste, qui effectivement est arrivé très jeune avec un premier film, qui entendait tout d'un coup changer l'histoire du cinéma, ce qu'il a fait. Donc je dis pas du tout que The Brutalist va changer l'histoire du cinéma, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais en tout cas c'est sûr qu'il faut, entre guillemets, un goût pour un film qui entend exister par lui-même comme un univers. C'est une nomenclature d'œuvre d'art. Il y en a dans la littérature, il y en a beaucoup dans le cinéma, et on peut tout à fait y être hostile ou considérer que celle-là est pas réussie.
Mais ce que vous disiez, Xavier Jarcy, quand vous disiez que le film n'est pas conforme à ce qu'a fait à la réalité de l'architecture, et certainement pas la réalité du Bauhaus aux États-Unis, mais il indique une direction, c'est-à-dire c'est comme s'il avait mis 3 heures pour dire, Corbeil, voilà ce qu'il faut faire, voilà, il faut retrouver cette racine-là, il faut retrouver cette racine artistique. Olivier Assayas dit quelque part dans un des papiers que c'est dans votre article, Samuel Blumenfeld, que c'est un film d'un courage fou que personne n'attend, et d'un courage, c'est la question du courage qui est intéressante, et effectivement, oui, on retrouve une forme d'héroïsme artistique en quelque sorte, le geste individuel, quoi.
Absolument. Tout à l'heure, on disait c'est un film hollywoodien. C'est pas du tout un film hollywoodien.
Pas du tout. Non.
C'est un film véritablement dont le montage financier a été long, tortueux et pour le moins complexe. C'est un film qui se déroule aux États-Unis, ça on l'a bien compris. New York, Philadelphie, mais en fait, il était essentiellement tourné en Hongrie. Donc autant dire qu'on est dans un film absolument décalé. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est que. On a dit tout à l'heure, c'est un film qui a mis 7 ans à se monter, en fait, 7 ans de gestation. Sur ces 7 dernières années, il s'est passé énormément de choses. Je parle pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid. Le Covid a été une crise historique pour le cinéma, c'est-à-dire que pour la première fois depuis sa création, les salles de cinéma ont fermé. Et nous parlons d'un film qui ne peut exister qu'en salle. On pourra le montrer à la télévision, sur des plateformes, ou Dieu sait quoi, mais véritablement, il s'incarne en salle et il ne s'incarnera jamais de la même manière sur un petit écran. Donc, c'est un film qui se conçoit dans cette crise historique du cinéma. Et puis, quand il apparaît aujourd'hui, en fait, au moment où il va peut-être recevoir un Oscar, il apparaît au moment où le nouveau président américain, enfin ancien, puis nouveau, et en fait, lui aussi vient du monde de l'architecture, puisque c'est un bâtisseur. Oui, hein. Donc, soudain, ce film-là, qui est conçu dans comme une dans une cloche, hein, véritablement dans le cerveau pour le moins habité de son réalisateur, devient soudain un fait d'époque. Ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui à en parler.
Xavier Jarcy.
Oui, alors effectivement, il y a l'analogie entre le cinéaste et puis l'architecte, mais est-ce qu'un architecte doit être un héros? Est-ce qu'il doit faire de l'architecture héroïque? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est ça l'architecture, ou est-ce que c'est pas plutôt être au service des besoins des citoyens plutôt qu'au service de son propre ego, quoi. Donc, voilà.
Non, mais on retrouve ce débat
dans le cinéma.
Dans le cinéma, évidemment, absolument. Olivier Lame, c'est le débat au nom duquel la politique des auteurs a été remise en cause récemment. Et c'est un des grands intérêts de ce film, le fait qu'il existe et qu'il ait été fait de cette manière, de réactiver soudainement cette question héroïco-romantique.
Il suffit de regarder la manière dont même à l'intérieur de l'industrie française et la manière dont elle est financé. Donc régulièrement, voilà, la classe politique s'en prend, on va dire, à la création cinématographique et en gros sous-entend, voilà, on sent cette poussée réactionnaire, comme quoi le cinéma devrait systématiquement trouver son public, donc systématiquement être populaire et entre guillemets répondre en fait à des besoins. Alors je fais pas du tout ce parallèle-là sur l'architecture, mais devrait répondre en fait à des besoins primaires, je sais pas, de besoins de fiction, d'amusement, voilà, les Américains disent entertainment, etc. Et il y aurait cette espèce de bipolarité qui serait créée, avec d'un côté voilà l'art qui se fait contre le public pour le plaisir de l'artiste, et de l'autre côté l'art qui serait fait pour le public. Et on sait à quel point le cinéma, qui dépend évidemment des financiers depuis sa création, en fait a toujours été dans ce paradoxe, dans cette contradiction. Et je trouve ça intéressant justement d'aller sur le terrain de l'architecture, dont on a pu dire qui a été aussi et qui est encore aujourd'hui régulièrement, et voilà, dès qu'un bâtiment, dès qu'un opéra, dès qu'une philharmonie est construite, on revient à ce débat de sa fonctionnalité, et aussi de la manière dont elle sert ou elle ne sert pas le public, l'État, la communauté. Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ce parallèle vraiment très amusant, quoi.
Et Corbet dit lui-même dans l'interview, je sais plus si c'est dans votre interview ou dans l'interview que vous avez fait, Olivier Lame, il dit: je parle tous les jours à de jeunes cinéastes qui débordent d'une aspiration, à de jeunes architectes. Il cite Daniel Libeskind, qui a dessiné le nouveau World Trade Center et le Jewish Museum de Berlin, et qui, dit-il, a écrit un texte très émouvant sur le film. Et ils annoncent aussi, lui et son épouse, qu'ils vont lancer une société de production dont les portes seront grandes ouvertes aux cinéastes du monde entier. Il est proche de Mian Sedlov, de Laure de Clermont-Tonnerre, de Olivier Assayas. Donc il y a cette idée de faire une sorte de... Il y a le souvenir de United Artists, qui
et même d'American Zoetrope, hein, de Coppola.
American Zoetrope, de Coppola, oui, absolument. Qui revient là, Samuel Blumenfeld.
Oui, il y a toujours United Artists, bon, c'était cette compagnie historique fondée par Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, donc du temps du muet, et qui a brillamment survécu jusqu'à la toute fin des années 1970.
Jusqu'à Heaven's Gate.
Jusqu'à la porte du paradis de Michael Cimino, qui a mis la compagnie par terre. Et donc, c'était le symbole, justement, de l'alliance fructueuse de l'art et de l'industrie. Il y a eu d'autres projets, effectivement, utopiques, mais l'utopie est indispensable quand nous parlons d'art. C'est qu'il y avait le projet de Coppola, American Zoetrope, qui était également de fédérer des artistes du monde entier, pas seulement américains, à San Francisco, Coppola roulant sur les succès du Parrain et d'Apocalypse Now. Et puis tout ça a été mis par terre par l'échec financier de Coup de cœur. Il y a eu à un moment une tentative de Steven Soderbergh, au début des années 2000, avec George Clooney, qui voulait justement créer une compagnie d'artistes et d'acteurs. Et très rapidement, en fait, les studios de cinéma leur sont tombés dessus pour leur dire « Vous faites ce que vous voulez, mais ça, certainement pas. Ça, c'est pas possible. » Donc, je crains quand même que cette utopie est nécessaire. Je ne sais pas quel avenir elle a. Mais si déjà elle a une vie brève, c'est toujours ça de prix.
Mais on va devoir finir cette émission. Mais le nom de Coppola, évidemment, me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure, Megalopolis, qui est aussi un film, son dernier film, sur un architecte. Mais c'est aussi un film sur la mégalomanie. Et il y a cette idée, Cimino, Heaven's Gate, qui a eu la peau de United Artists, c'est aussi un délire mégalomaniaque. Il y a cette idée l'idée quand même que et là quelque chose de ça en quelque sorte revient dans ce geste romantique de Courbet. Ça vient des États-Unis à une époque où probablement le président des États-Unis le plus mégalomaniaque et taré qu'on ait vu depuis la création de l'histoire des États-Unis revient. Donc il y a quelque chose de ce romantisme pour le meilleur et pour le pire. Qui est en train de...
Sans doute, peut-être qu'on a besoin de ce genre de modèle, peut-être pour construire des utopies ou des dystopies. Je ne sais pas, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans les années qui viennent, si Hollywood, de quelle manière Hollywood va ou ne va pas se mettre au pas du gouvernement et de ce qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, tout ce qui est en train d'être dévasté. Et est-ce qu'une alternative artistique et peut-être industrielle aura l'espace et la liberté de se mettre en place ou pas, et est-ce qu'elle va le faire, est-ce que ça va rester, on se fait le gramme plat, c'est une grande question.
Just a kid. Let me disbelieve my eyes, my whole crooked way of seeing. Let me stand in the ring of fire, Lord, and just beg the flames to burn me. Lord, my prayer is to learn.
Voilà, merci à tous les trois d'avoir été là. Merci Xavier de Jarcy. Je rappelle le titre de vos livres. Maurice Calca, le sculpteur du design. Le Corbusier, un fascisme français. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste d'architecture. Merci Sabine Blumenfeld. Le dernier livre sorti l'année dernière, c'est Delon Belmondo. Et Une affaire très française avec Raphaël Baquet est sorti en poche, sort en poche en ce moment, c'est ça. Et merci Olivier Lam d'avoir été là. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marc, avec à la technique François Saint-Jour et à la réalisation Luc-Jean Renaud. Let me thank my friends who died young from drugs.